Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est notre 25e pour la 11e saison et je reçois aujourd'hui Cyril Dowling pour son roman Taman Asli. Cyril Dowling, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professionnellement, vous avez été professeur d'anglais, mais vous êtes aujourd'hui inspecteur d'anglais dans l'éducation nationale,
Oui. Ce
qui n'explique pas forcément qu'on écrive un roman qui s'appelle Taman Asli, mais on va découvrir que vous avez un parcours dans votre jeunesse assez original et ça expliquera peut-être ceci. Première chose, alors Taman Asli, c'est du malais, de Oui. Malaisie. Langue auquel beaucoup de Français ne sont pas très très familiers. Alors, première explication, ce titre, et puis entrons dans ce qu'est ce roman. C'est quand même un gros bouquin de 400 pages et quelques.
Oui.
Alors, une histoire d'amour, vous allez nous expliquer tout cela,
oui.
Cyril Dowling.
Donc, je commence par le titre.
Ben oui, déjà, en traduction française.
Alors, traduction française, alors, Taman Asli, c'est le lieu où se déroule le roman, un lieu central dans le roman, c'est la maison dans laquelle vit le personnage principal, qui se situe.
Alors ça se situe
en Malaisie,
dans
à
Kuala Lumpur, qui est la capitale.
Capitale de la Malaisie.
Voilà.
En malais, Taman Asli veut dire jardin originel ou jardin sauvage. Après, en lisant le roman, on découvre peut-être d'autres significations à ce terme qui revient un peu comme un mantra entre les personnages et qui est aussi l'anagramme de plusieurs autres mots. Mais voilà, c'est un lieu donc qui évoque un jardin originel et un peu un paradis perdu, quelque part.
Alors, paradis perdu, on va un petit peu plus loin, c'est le roman lui-même, le contenu du roman.
Oui, tout à fait. Donc en fait c'est à la fois, comment est-ce que je le définirais, c'est à la fois un roman initiatique, puisque les personnages dans ce roman, le héros et l'héroïne passent un peu de leur adolescence à leur âge adulte, voilà, une histoire de destin croisé, une grande histoire d'amour impossible, qui nous emmène dans plusieurs pays, donc en Malaisie et aussi à Paris, un petit peu en Australie, un petit peu à New York, à la fin du XXe siècle. Puisque le roman se situe à la fin des années 80.
Oui, alors ça, on va y revenir un peu plus en détail, mais tout ce côté un petit peu exotique, ces voyages, c'est finalement, ça a été votre quotidien, votre passé en tout cas.
Oui.
Alors vous êtes né en France ou à Kuala Lumpur ?
Alors je suis né en France.
Mais vous avez vécu longtemps, jeune, à Kuala Lumpur ?
Oui, on va dire que j'y ai passé mon adolescence. Mes années collège, hein, j'ai suivi mon père qui travaillait là-bas. Et ensuite, moi, à 14 ans, je suis rentré en pension en France parce qu'il n'y avait pas d'école, française à Kuala Lumpur à l'époque. Mais mes parents, ils sont restés jusqu'à mes 20 ans à peu près. Donc c'est un pays qui a occupé ma vie et mon imaginaire toute mon adolescence.
Oui, voilà. Et d'où un petit peu l'exotisme de ce roman, puisque vous y faites allusion, alors autant les personnages que les lieux, assez régulièrement.
Oui, oui, oui.
Et alors, le milieu dans lequel vous viviez là-bas, parce que votre père, je crois, est australien.
Oui,
mère française.
Oui.
Et vous étiez dans ce qu'on appelle les Français de l'étranger, les gens qui vivent. Alors, c'est plus la colonisation, parce qu'on la décolonisation a eu lieu. Mais on est encore dans des milieux où il y a des rapports qui sont un petit peu colons autochtones.
Oui, tout à fait.
Alors, décrivez-nous ce monde-là vous avez vécu à l'époque.
Ce monde, donc, la Malaisie, c'est un pays qui a eu son indépendance en 1957. Le roman se déroule principalement entre 1987 et 1988, c'est-à-dire 30 ans après l'indépendance. Donc, comme je disais, c'est une grande histoire d'amour entre deux personnages. Un jeune Français qui vit dans ces milieux, ces milieux un peu d'expatriés, diplomatiques.
Oui, il y a beaucoup de gens du corps diplomatique.
Oui, voilà. Alors, il y avait très peu de...
Les ambassades, etc.
Tout à fait. Donc, effectivement, le roman commence à l'ambassade de France. Voilà, c'est dans ces milieux d'affaires, etc. Où il y avait très peu de Français à l'époque, hein, en Malaisie. Il y en avait très, très peu. À l'époque.
Ce qui explique que vous n'ayez pas de lycée pour faire vos études sur
place. Non, absolument. Et l'héroïne, elle, est une héroïne malaisienne. C'est une jeune femme qui est héritée d'une compagnie d'armement de son père, qui, elle, est un peu une allégorie du pays avec ses volontés d'émancipation et en même temps le carcan d'archaïsme, de tradition dans lequel elle est encore.
Alors, le pays est essentiellement musulman.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Donc, c'est une femme qui est dans cette mouvance-là.
Oui, qui est musulmane et qui a cet héritage musulman, qui a hérité à la fois donc de cet héritage musulman, de la compagnie d'armement de son père, bien qu'elle soit très jeune, et qui n'a pas choisi son destin, qui tente en fait d'échapper à son destin.
Oui, qui tente quand même. Alors je dirais pas, je sais pas si le mot féministe convient, mais c'est un peu une sorte de George Sand aussi de l'époque.
Un petit peu.
Qui lutte contre une certaine oppression ressentie.
Oui, tout à fait. Et donc ces deux personnages vont se rencontrer, vivre une grande passion. Alors on sait dès le début que c'est un amour impossible. Mais commence une course à travers différents pays, à travers le monde, qui va durer 2 ans.
Et alors, Amour impossible, ça fait partie de la littérature, c'est même un des monuments de la littérature, mais dans cette condition particulière, dans votre roman, pourquoi impossible?
Alors, parce qu'ils viennent de deux milieux, justement, qui sont antagonistes.
Antagonistes, pas seulement différents.
Différents, antagonistes. Alors, je vais commencer par les différences. Mon héros...
Alors, cette femme, elle s'appelle Nour.
Elle s'appelle Nour.
N-O-2-R.
Voilà, tout à fait. Qui veut dire lumière.
En malais, c'est lumière.
En arabe, en fait.
En arabe.
Voilà. C'est-à-dire que ce soit un personnage très mystérieux qui est la plupart du temps associé à la nuit. Donc, elle s'appelle Nour. Et mon personnage masculin s'appelle Alastair. Donc on a d'un côté l'incarnation un peu de ce monde post-colonial et de l'autre côté mon héroïne qui est un peu une allégorie, comme je disais, d'un pays en pleine mutation. Alors pourquoi impossible? Déjà parce que on a comme toile de fond un peu des histoires d'espionnage propres à l'époque. Le père d'Alastair est mêlé à des histoires d'armement. Nour, l'héroïne, est également mêlée à des histoires un peu de trafic
d'armes.
Ils
sont déjà très concurrents sur le terrain.
Voilà. Donc déjà il y a cet antagonisme-là avec un peu un interdit bien sûr d'avoir une histoire d'amour. Ensuite le personnage masculin a 20 ans, Alastair, alors que Nour approche de la trentaine, donc il y a aussi cette différence d'âge. Et ils sont dans deux dynamiques contraires quelque part. Puisque Alastair cherche à construire sa vie, à construire son destin, alors que Nour tente d'échapper au sien.
Oui.
Ils ont en commun le fait d'une certaine animalité. Ils s'identifient tous deux comme deux êtres un petit peu hybrides, qui portent en eux une animalité, qui sont dans une espèce de symbiose avec la jungle qui les entoure. Ce sont deux personnages très romanesques, très romantiques, qui court dans la forêt, qui s'échappe, qui se retrouve.
Alors, vous parlez de jungle. Kuala Lumpur, c'est le climat équatorial.
Oui, tout à fait.
Donc, la jungle, elle est liée.
La jungle, elle est omniprésente, puisque à l'époque où se situe le roman, la ville est surtout une jungle. Ça se passe dans un milieu très, très végétalisé, avec énormément d'animaux. Il y a toujours des animaux à proximité, des serpents, des singes, des varans. Au début du roman, le personnage principal, Alastair, se réveille d'une longue convalescence après avoir été piqué par une mygale. Voilà, ce qui symbolise un peu sa condition.
Et qui le situe dans ce milieu qui, pour nous, est tout à fait ésotérique. À la fois ésotérique et puis exotique.
Oui.
C'est peut-être ce que vous avez recherché dans
ce... C'est ce que j'ai recherché absolument. Deux êtres qui appartiennent un petit peu justement à ce jardin perdu. Alors que une ville extrêmement moderne s'érige. Donc en fait, on a, si vous voulez, dans le roman, une lutte entre la jungle qui résiste et la ville qui commence à s'ériger.
Ce qu'on appelle l'urbanisation.
Urbanisation à outrance. Et quelque part, les deux personnages se construisent en même temps que la ville s'érige et que cette fameuse jungle recule.
Oui. Ensuite, oui, donc, cette dualité se retrouve un petit peu alors dans l'histoire.
Absolument.
Dans leur être à eux.
Absolument. Il y a un parallèle en fait entre cette lutte interne entre la modernité effarante qui sort de terre comme des champignons, avec la jungle, les animaux qui résistent, et la construction de ces deux personnages.
Et alors, le roman lui-même, dont je rappelle que c'est un livre qui fait environ 400 pages, donc il est dense.
C'est une saga.
Vous avez choisi une intrigue, alors d'abord avec un narrateur qui est un journaliste du New York Times.
Oui.
Qui semble un petit peu greffé, là, mais qui finalement joue un rôle. Expliquez en quelques mots, Cyril Daoulé.
Oui, alors, en fait, le narrateur s'appelle Steven. C'est un journaliste du New York Times qui est à Paris pour couvrir la réélection de François Mitterrand. Qu'on est dans les années 80.
Années 80, oui.
Il est intrigué, puis obsédé, puis à moitié amoureux pour sa voisine de palier, qui est très mystérieuse, qui trouve extrêmement belle, donc il tombe très vite amoureux d'elle.
Qui
est cette fameuse Nour, mais on le sait pas encore. Et il est d'autant plus intrigué qu'à plusieurs reprises, il voit un jeune homme endormi sur le palier, un jeune homme qui a un regard animal, qui est à la fois habillé de façon très classique, et qui a l'air d'un animal traqué, qui rôde autour de l'immeuble, etc. Donc on part sur ce mystère. Un soir, le soir du 14 juillet 1988, on frappe à la porte de Steven, donc ce journaliste, et c'est justement cette mystérieuse voisine et ce mystérieux étranger qui lui demandent de passer la soirée avec eux.
Ah, ils sont voisins de palier.
Ils sont voisins de palier, absolument. Donc, intrigué, il y va, et à l'issue de cette soirée, ses deux amants, donc Nour et Alastair, disent à Steven, nous allons nous séparer demain matin et nous voulions, comme tu es journaliste et photographe, nous voulions te demander de prendre une photo de nous, nus et enlacés, tel que nous nous sommes aimés. Une photo avant de...
Témoignage
de notre
dernier
amour.
Dernier témoignage.
Donc il fait cette photo, il est très troublé, et on en reste là. 20 ans après, Alastair est devenu un célèbre acteur. Et à l'occasion d'une interview, Steven, donc le journaliste, retrouve Alastair. Et à partir de là, on va découvrir par une série de retours dans le passé toute l'histoire qu'il y a derrière cette photo.
Voilà la construction, donc.
La construction.
L'échafaudage.
Absolument.
Construit pour ce roman. On marque, Cyril Daoulé, une première pause.